Père Céleste, combien nous ressentons notre grand besoin de toi en cette nouvelle année. Et merci parce que tu es celui qui est le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, celui qui est le refuge en tout temps et celui qui ne change jamais. À l'instant même, je prie que ton Esprit Saint agisse dans nos cœurs, que tu nous fortifies par ta parole. Aussi, je demande, Père, ta grâce pour moi de m'aider à être clair pour exposer ta parole, pour nous encourager. Mais la parole ne suffit pas. Il faut l'œuvre du Saint-Esprit qui agit à travers la parole de Dieu dans nos cœurs. Et donne-nous un cœur qui est ouvert, un cœur qui est enseignable, un cœur qui veut obéir. Et c'est ce que tu cherches, Père. Nous te demandons ta grâce et ta bénédiction sur nous maintenant. Et je prie par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le premier dimanche de l'année 2020, 5 janvier. Ce matin, en réfléchissant, je me suis dit, mais quoi de nouveau à dire au peuple de Dieu qui en sait beaucoup déjà? Quoi de nouveau pour cette année 2020? Et j'arrive à la conclusion dans mes pensées à me dire, oui, on doit à nouveau rappeler au peuple de Dieu ce qu'ils savent déjà. C'est ce que avait l'apôtre Pierre comme attitude. C'est ce que avait Jude, un des frères du Seigneur, comme attitude. Pierre disait à son auditeur, « Je prendrai soin de vous rappeler ces choses bien que vous les sachiez. » Jude, de même, face à un contexte dans l'Église et le monde dans lequel se trouvait le peuple de Dieu, les avertit de l'erreur des faux docteurs et il dit, « Je veux vous rappeler à vous qui savez bien, fort bien ces choses. » Donc, quoi de neuf? Quoi dire? C'est que de nous rappeler les choses que nous savons déjà. Et ce matin, une chose juste que je voudrais qu'on se rappelle, c'est de racheter le temps. Je vous invite à chercher votre Bible dans Éphésiens. Éphésiens, donc, chapitre 5, versets 5 et 16. Et mettez un doigt sur ce verset, et aussi Colossiens 4, verset 5. C'est, je dirais, le passage, les deux passages sur lesquels est axé, sur lesquels sont axés, donc, le message ce matin. Donc, je voudrais, en premier lieu, voir ce que signifie racheter, quand on parle de racheter le temps. Et je finirai par un deuxième point où nous touchons deux domaines indispensables pour les croyants où nous devons racheter le temps. C'est racheter le temps pour nous nourrir de la parole de Dieu et racheter le temps pour invoquer Dieu. Éphésiens 5, versets 15 et 16. Nous lisons, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Vous voyez bien l'impératif, rachetez le temps, n'est-ce pas? Colossiens 4, 5, la même chose. Paul dit, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et racheter le temps. » Avant d'aller plus loin, nous voyons que c'est un impératif, c'est pas une option. C'est un impératif, le temps divin, mais l'impératif est donc, nous devrions racheter le temps, c'est un ordre, n'est-ce pas? Et deuxième chose, est-ce que vous avez remarqué dans les deux versets que la manière de racheter le temps est intimement liée à notre conduite? À chaque fois, racheter le temps par rapport à la conduite que nous voyons dans ce verset 15 et 16 et pareil dans Colossiens. Donc la question que nous nous posons maintenant, que signifie racheter? Le lexique biblique nous donne des informations précises sur ce verbe racheter. Deux choses se dégagent. D'abord, il y a un aspect positif. Quand on parle de racheter, ici, le temps, le verbe racheter, il y a l'aspect positif de dire faire un usage sage. Saisir chaque occasion pour faire quelque chose de bien. Ça, c'est l'aspect positif. Faire un usage sage du temps qui nous est alloué. Mais il y a un autre aspect aussi négatif quand on parle de racheter le temps. C'est l'idée de rattraper le temps perdu. Ou le temps qu'on avait gâché pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Donc retenez ces deux choses quand nous parlons de racheter le temps. Donc il s'agit de faire un usage sage du temps qui nous est alloué. Et aussi, peut-être vous êtes dans les regrets, c'est de rattraper le temps perdu ou le temps gâché. C'est bien que ça nous encourage. Et vous savez, le verbe ici, quand on parle du temps, c'est le mot grec kairos. Kairos désigne le moment précis pour faire quelque chose. Donc, racheter le temps. Donc, le temps, c'est le moment précis pour faire quelque chose. Le temps opportun, le temps favorable, le temps convenable. Et ce mot est utilisé, par exemple, quand on parle des récoltes. Il s'agit donc maintenant, c'est le temps des récoltes. Galates 6.9, je ne veux pas lire ce passage, vous pouvez le regarder. On va utiliser ce mot grec, kairos, quand il s'agit du temps de l'épreuve. Luc 8.13. Donc c'est encourageant. Et c'est important pour nous de mettre à profit le temps présent, saisir toutes les occasions, ne négliger aucune circonstance favorable pour accomplir la volonté du Seigneur. Je parle de l'aspect, quand on parle de racheter, du temps gâché, du temps perdu. Rachetez le temps parce que maintenant, vous pouvez rattraper et vous avez l'occasion de rattraper ce qui était manqué ou ce qui était gâché. Oui, dans le regret, on aurait pu dire, j'aurais dû témoigner de ma foi auprès de mes collègues, de mes voisins, mais j'avais pas le courage. J'avais honte. Il est temps de rattraper aujourd'hui. Vous aurez pu dire, j'aurais dû avertir un ami du danger dans lequel il s'expose parce qu'il a pris une voie que je sais pertinemment que ce n'est pas à son bénéfice, mais c'est à sa perte. Et je n'ai pas osé lui dire, je regrette. Il est temps de racheter pour de telles choses. Racheter le temps, il n'est jamais trop tard. Vous êtes, je suppose, sous Éphésiens 5, versets 15 et 17. Je voudrais juste souligner trois choses dans ce verset. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un principe dans ce verset, le verset 15? Et je vois aussi un rappel dans le verset 16. Et un appel au discernement au verset 17 que nous n'avons pas lu. Regardons très rapidement ces choses quand on parle de racheter le temps ici. Donc je vois un principe de vie. Il dit, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Donc il y a un principe, nous conduire avec circonspection. Ça vient du latin donc, circum, autour, et spécer, regarder. Ça veut dire quoi littéralement? Littéralement, donc, c'est regarder autour. Regarder autour. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons lu dans le Colossiens 4, 5, nous pouvons dire, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Tout simplement parce que nous sommes observés. Nous sommes observés par les gens du dehors. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé avec les collègues que vous avez témoigné? Ils sont les yeux fixés sur vous, sur moindre attitude, il n'oserait, n'hésitera pas à vous dire, ah, tu es chrétien, regarde ce que tu fais. Vous décrédibilisez la parole du Seigneur par nos témoignages. On nous regarde autour, donc nous devrions nous conduire avec circonspection. Donc il y a un comportement à avoir par rapport aux gens du dehors. Et vous avez remarqué, prenez donc, quand on a toujours ce connecteur, ça veut dire que nous devrions regarder qu'est-ce que Paul vient de dire auparavant. Le donc nécessite donc de regarder ce qui est auparavant. Qu'est-ce que Paul disait? Il rappelle la nécessité pour les croyants de se conduire comme des gens qui ont été ressuscités des morts. Vous voyez? Et qui ont reçu la lumière de Christ et sont devenus des lumières dans le Seigneur. Vous pouvez regarder les passages juste avant. Donc, notre position en Christ implique une conduite qui manifeste notre position en tant que lumière. Ça, c'est le premier principe. Donc, nous conduire, regarder tout autour, parce que nous sommes lumière et nous devions refléter la lumière de Christ dans nos vies, tout autour de nous. Mais il y a un rappel, c'est notre sujet, racheter le temps, et il vous l'explique pourquoi. Vous voyez, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, donc, nous devons tirer meilleure parti de toutes nos occasions, non seulement parce que nos jours sont comptés, de plus en plus, une année de plus, on se rend compte que nos jours sont comptés, parce que le monde continue à s'opposer à nous, pour empêcher l'avancement de l'œuvre de Dieu, les jours sont mauvais. Et vous voyez l'opposition, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le voisinage, ça peut être à travers le collègue, ça peut venir de partout. Tout simplement pour l'opprobre que nous portons de nous appartenir à Christ, parce que nous avons témoigné de lui, notre salut en lui, autour de nous. Et donc l'opposition est là. Chers frères et sœurs, nous devrons saisir chaque moment de la journée pour accomplir des choses justes, les œuvres qui glorifient le Seigneur. Donc un principe, un rappel, et je vois au verset 17, un appel au discernement. Il est écrit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Si vous regardez le mot ici à l'origine, inconsidéré, il veut dire insensé, il veut dire fou. Donc nous devons nous conduire comme des sages. C'est possible avec la sagesse de Dieu, non pas avec la sagesse de notre ancienne vie qui est une folie, n'est-ce pas? Nous en rendons compte de plus en plus quand nous nous mettons devant le miroir de la parole de Dieu. Combien notre sagesse est futile. Notre sagesse est une folie quand nous regardons la sagesse de Dieu à travers sa parole. Paul disait, nous lisons Tite 3, verset 3, nous aussi nous étions autrefois insensés, des fous, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie digne d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Ça, c'est ce qui nous caractérisait avec notre propre sagesse, n'est-ce pas? Parlons maintenant des domaines dans lesquels nous devrions impérativement racheter le temps. Donc nous devons racheter le temps pour nous nourrir de la parole de Dieu. Et je vous invite à tourner votre Bible dans le psaume 119. Psaume 119. Et je voudrais vous faire remarquer cette façon dans ce psaume pour appeler la parole de Dieu. Et on se pose la question, mais pourquoi la parole de Dieu a beaucoup de noms? Parce que ces différentes facettes, comme un joyau précieux, un diamant précieux, va nous montrer la beauté de la parole et le potentiel qu'elle a pour toucher nos vies, les divers besoins de notre vie. Psaume 119, nous lisons au verset 1, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Ici, La loi, c'est la Torah, c'est l'enseignement. Donc, la parole de Dieu est bénéfique, ne serait-ce que par sa signification qu'elle est la loi, parce qu'elle nous instruise. Nous venons de parler que notre sagesse, c'est la folie. Et combien nous avons besoin de la loi, c'est l'enseignement de la parole de Dieu pour nous instruire sur la voie de Dieu, qui est la voie de la sagesse. Voyez. Deuxième chose quand nous lisons, verset 2, qu'est-ce que nous remarquons? Heureux celui qui garde ses préceptes et qui le cherche de tout leur cœur. Préceptes. Nous venons de voir, la loi, c'est l'enseignement, la Torah, pour nous instruire. Maintenant, préceptes. Qu'est-ce que souligne ce mot? Ça souligne le fait que Dieu atteste comme étant la vérité venant de lui et qui parle de lui cette parole et qui le révèle. Vous voyez? Donc les préceptes, c'est ce que Dieu atteste comme étant la vérité venant de lui et qui parle de lui et qui le révèle. C'est la parole de Dieu. Et nous savons dans le Nouveau Testament que la parole de Dieu s'est incarnée dans une personne, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que nous avons besoin de connaître Dieu, nous lisons et nous voyons Dieu à travers Jésus-Christ. C'est la personnification de Dieu. Regardons le verset 3. Comment est qualifiée la parole? Et qui ne commette point d'iniquité et qui marche dans ses voies. Voix. Le voix, c'est pour indiquer que la parole, c'est un guide. Hein, qui guide vers un mode de vie qui est attendu par Dieu et qui lui rend gloire. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, ça révèle qui est Dieu, ça nous enseigne, mais aussi, ça, c'est comme un guide qui nous dirige vers ce que Dieu attend de notre vie et ce qui lui fait plaisir. Vous voyez? Continuons au verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Dans ce que je vous dis, je vis juste les noms de la parole pour sortir ces joyaux qui nous aident dans tous nos besoins, les aspects de notre vie. Ici, c'est ordonnance. Ça vous est arrivé de tomber malade. Vous allez à la pharmacie, le médecin vous a prescrit un médicament. Si vous voulez être guéri, vous devrez suivre scrupuleusement les notices du médicament. Un médicament peut soigner, mais si vous ne suivez pas comme il faut, il peut vous faire mal aussi. Ça peut être un danger. Et ici, quand on dit ordonnance, c'est comme l'instruction que des détails de la vie que Dieu attend de ses enfants. Donc ça nous donne comme une notice des médicaments, les instructions de Dieu utiles pour notre vie. Vous voyez? Et moi, je ne rentre pas dans beaucoup de détails, on peut en dire plein de choses. Mais juste, hein, la parole, c'est comme une instruction pour nous aider dans les divers aspects du détail de notre vie quotidienne. Regardez le verset 5. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Ici, le mot statut, à l'origine, vient du mot gravé. Donc, c'est comme une parole qui est gravée dans le roc. Donc ici, l'idée, c'est pour éviter la parole de Dieu, sa permanence. Nous venons de parler ce matin du psaume 48, verset 15. Vous voyez? La permanence des attributs de Dieu qui ne change jamais. Et ici, la parole de Dieu, comme gravée sur le roc, ne change jamais et elle est fiable. Elle est un guide sûr. C'est sur laquelle nous pouvons fonder et mettre confiance totale pour nos besoins. Il est tout suffisant pour nous. Et continuons au verset 6. Alors je ne rejouerai point à la vue de tous tes commandements. La parole de Dieu est appelée ici un commandement. Donc un commandement, pourquoi on donne un commandement? Pour qu'on puisse obéir, n'est-ce pas? Et donc la parole de Dieu est donnée pour notre obéissance. Où vous en êtes par rapport à votre obéissance vis-à-vis de la lumière que Dieu vous donne? Vous devrez faire ça. ça nous donne une grande responsabilité devant Dieu. Parce que Dieu, comme j'ai dit à quelqu'un, devant le juge, parce qu'il sera le juge de toute la terre, il ne va pas nous demander quelque chose que nous ne savons pas. Il va nous demander de nous rendre compte sur ce que nous avons reçu comme lumière. Êtes-vous toujours obéissant à ce que Dieu vous demande? Et pour terminer, le verset 7, « Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. » Ici, notre version, c'est pas le même mot que « loi » qu'on a vu dans le verset 1, mais c'est « sentence ». En tant que déclaration autoritaire d'un juge. Ça, c'est l'idée ici. Donc ici, l'autorité de la parole, par le fait que c'est Dieu qui a décrété ce qui est juste et ce qui doit être vécu par le modèle qu'il donne dans sa parole. Donc vous voyez ces différents mots, ne serait-ce qu'en méditant sur chaque aspect, nous montre les richesses de la parole de Dieu et ce qui comble nos vies dans ces divers besoins. Peut-être ce matin, vous dites, l'obéissance est pour les autres, pas pour moi. Réfléchissons. Rachetons le temps de réfléchir et de conduire notre vie selon cela. Peut-être la parole de Dieu vous dit, voilà ce qui est correct, ce qui est juste, la norme, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous dites, la mesure par laquelle ma vie est conduite, c'est moi-même ma propre mesure. Erreur. Dieu a décrété que sa parole est la norme. Il est la norme, la mesure. Nous devrions nous soumettre à cela, n'est-ce pas? Je voudrais maintenant terminer par le deuxième domaine dans lequel nous devrions racheter le temps. C'est invoquer le Seigneur. J'utilise exprès le mot invoquer au lieu de le mot général prier. Tout simplement, nous savons que la Bible enseigne qu'on peut prier dans sa chambre, en privé. Matthieu 6, verset 6. Nous le dit. Mais la Bible enseigne que nous devons prier aussi collectivement en tant que peuple de Dieu. Actes 4, 24 nous le dit, 1 Timothée 2, 12 nous le dit. Et j'ai choisi exprès le mot invoquer pour l'année 2020, parce que comme nous le savons tous, chaque année amène des lots de surprises. Chaque année amène des lots d'afflictions. Chaque année amène des choses inattendues. Et c'est dans ces circonstances que le terme « invoquer le Seigneur » a toute sa place et sa raison d'être. Ce qui veut dire que nous devons nous confier entièrement en lui pour recevoir son aide et s'attendre à lui pour être secourus. Vous savez, Dieu est constamment à notre écoute. Et nous sommes exhortés à nous approcher avec confiance et avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 16. Et pour nous encourager, je veux citer quelques exemples des situations dans lesquelles nous pouvons invoquer le Seigneur. Matthieu 14, versets 30 à 31, vous pouvez regarder, où Pierre a trouvé le secours sur la mer de Galilée en invoquant le Seigneur. Dans Néhémie 2, versets 4 à 5, Néhémie, pour pouvoir revenir à Jérusalem, a invoqué Dieu pour qu'il puisse rebâtir la ville. Et Dieu a exaucé. Je rappelle Jonas, qui a crié Dieu, non pas dans une salle, ni devant une chair, mais c'est dans le ventre d'un grand poisson. David lui-même, disait dans Psaume 18, verset 7, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Chers frères et sœurs, ces quelques exemples doivent nous convaincre et nous encourager pour cette année 2020 à nous placer en Dieu, de nous dépendre de Dieu et crier à lui, invoquer chaque jour dans notre vie, parce qu'il peut nous secourir. Il est à l'écoute. Pas seulement à l'écoute, mais il intervient aussi pour nous secourir. Donc, n'oublions jamais de lui invoquer, quelles que soient nos circonstances. C'est des choses que nous connaissons déjà, mais nous avons besoin de nous rappeler. Déjà, pourquoi? Parce que entre ce que nous savons et ce que nous ressentons, souvent il y a un grand écart. Et combien Dieu nous avons besoin de Dieu pour nous apprendre à vivre la réalité de ce que nous savons, dont nous sommes obligés et exhortés à nous rappeler. Oui, racheter le temps pour être dans la communion personnelle avec Dieu par la méditation de sa parole et par la prière, ce que nous venons de dire. Mais peut-être ce matin, dans le public, il y a quelqu'un ou d'autres personnes qui ont besoin de dire, mais j'ai besoin de prendre une décision. J'ai gâché beaucoup d'occasions dans l'année passée. Et je veux racheter le temps. Je veux prendre la décision maintenant de témoigner de ma foi en Christ pour les autres. Que Dieu me donne sa grâce pour l'accomplir. Avant, j'avais honte de partager l'évangile. Mais maintenant, Seigneur, aide-moi à avoir la confiance et surtout ton appui de ce que tu m'aides à toute occasion qui se présente devant moi pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Peut-être d'autres, en rachetant le temps, se pose la question, oui, il y avait des personnes avec lesquelles j'ai passé beaucoup de temps, mais qui ne sont pas des gens qui appartiennent au Seigneur. Attention, je ne dis pas de ne pas avoir des amis dans le monde. Ce n'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est de prier à ce que je passe plus de temps avec le peuple de Dieu, avec une personne à qui peut m'aider dans ma marche dans le Seigneur, avec le Seigneur. Et donc, j'ai besoin de me discipliner, abandonner des choses ou des personnes qui ne permettent pas que j'avance dans mon sanctification. Racheter le temps. Ou peut-être dans la vie passée, vous étiez tellement mécontent. Vous dites, oui, où est Dieu? Pourquoi il permet cela? Je ne comprends pas. Oh, cette nouvelle année, rachetez le temps à ce que Dieu cultive dans votre cœur une attitude de contentement et non pas d'être râleur. Parce que sinon, vous n'éprouverez jamais les joies dans votre vie. Et on a besoin de se discipliner pour cultiver en nous l'esprit de gratitude. Peut-être l'année passée, vous dites, j'étais très occupé, j'ai pas beaucoup de temps pour Dieu, mon travail, ma vie me prend beaucoup. Comme je disais dans une prédication dimanche dernier, on devrait prendre la décision de dire, je prends le temps, parce que si je ne prends pas le temps, je ne trouverai jamais le temps. Et dire, Seigneur, je veux être plus consacré à toi cette année. Je sais que ça va être difficile, mais je veux me discipliner. Parce que le rachat a à faire avec une conduite, racheter le temps. Et j'ai besoin de me discipliner pour trouver le temps. Et je veux le trouver. Parce que je sais que je ne peux pas me contenter de ma vie comme ça. Ça ne me satisfait pas. Ça ne me rend pas la vigueur de l'âme à l'intérieur. Ça ne fait que les pressions de la vie m'assèchent spirituellement. J'ai besoin, cette année, racheter le temps dans ce domaine. Aide-moi, Seigneur. Peut-être l'année dernière, vous dites, oui, vous manquez beaucoup de fidélité. Oui, par rapport à la fidélité envers le Seigneur, je veux racheter le temps. Est-ce que cette année, quand il présente devant moi quelque chose à faire, est-ce qu'il peut compter sur moi? Quand votre pasteur vous demande, tu peux faire ceci ou tu peux faire cela, s'il te plaît? Non, je suis trop pris, je n'ai pas le temps. Est-ce que Dieu peut compter sur moi cette année? Chers frères et sœurs, on a beaucoup de domaines dans lesquels nous avons tous besoin de prendre une décision. Dans le silence de votre cœur, adressez-vous à Dieu et que cette année 2020, c'est une année de croissance, une année où chacun d'entre nous a le désir de dire « Je rachète, j'avais gâché